monde de Tintin et Milou. Une chronique animée par Jean-Yves Delors et Bruno Hiray.
Bonjour Bruno, mille sabords.
Bonjour Jean-Yves, tonnerre de Brest.
Alors, nous allons voir pendant 3 semaines les relations entre Tintin et la grande histoire mondiale. Aujourd'hui, nous verrons la période qui va de 1920 à 1940. Vous êtes d'accord ?
Ah mais d'accord, je suis très étonné que ce soit si intellectuel.
Dès les premières aventures, Tintin voyage. Bah, c'est normal, c'est un reporter. Mais il est aussi confronté à l'actualité. Et dans pratiquement tous les albums, il sera question soit de l'actualité, soit de thèmes qui touchent la période 1930-1960.
C'est le cas dès la première édition, Tintin au pays des Soviets, dont nous avons déjà parlé. Tintin est au cœur de l'actualité. Le reporter veut ouvrir les yeux de ses lecteurs sur la réalité de la Russie de Staline. Tous les épisodes insistent sur les critiques du régime. Les usines en toc, où l'on brûle de la paille pour faire croire qu'elles tournent à plein régime. La réquisition du blé des paysans, les arrestations arbitraires, les votes truqués.
Et de retour au pays, c'est-à-dire en Belgique, Tintin va repartir au Congo. Au Congo belge, bien sûr. Là, on est en 1931, en pleine période de colonisation. Et première différence avec l'album précédent, Hergé, cette fois-ci, s'est renseigné. Il a visité le musée de l'Afrique centrale à Nervuren. Les pistes qu'il dessine sont plus réalistes. Le mannequin de la société secrète qui a l'apparence d'un léopard est plus véridique. La locomotive poussive, les missionnaires en soutane, les chasseurs pygmées de petite taille, Hergé les a bien découverts et au musée. Les pays européens qui ont la domination démographique, scientifique, économique ont colonisé presque tout le continent africain, sauf l'Égypte, l'Éthiopie. Et même les milieux politiques progressistes défendent cette vision colonialiste. L'Europe équipe, construit des routes, soigne, encourage l'agriculture, évangélise. Tintin fait pareil, il soigne, il éduque, mais il en profite pour chasser abondamment. Il assure la sécurité et permet de mettre sous les verrous quelques gangsters.
Prends garde, Chicago, nous voilà. À peine revenu du Congo, Tintin part aux États-Unis. Et notre héros va se trouver affronté à un très célèbre bandit, Al Capone. Si le bandit n'est pas nommément cité, il lui ressemble fortement.
Bon, finalement, la situation américaine n'est guère meilleure que la situation soviétique. Après les gangsters américains, Hergé passe à un autre sujet d'actualité. En 1934, la découverte des tombes des pharaons et le trafic d'opium. En 1922, la découverte de la momie de Toutankhamon a suscité une légende maléfique. Et d'ailleurs, l'album des cigares du pharaon commence ainsi. On voit Tintin en train de lire un journal. Bien sûr, les pyramides apparaissent. Le dessin est beaucoup plus précis. Pour la première fois, une histoire ne s'arrête pas à la fin d'un album.
Et nous voilà en 1936 partis pour la Chine. Le lotus bleu, cela semble la suite des cigares. Mais 2 ans ont passé. Hergé a vu des changements dans sa vie personnelle. Il s'est marié, a des revenus, assure seul la gestion des albums. Pour donner plus de crédibilité à ses histoires, il sollicite à la demande de l'abbé Gosset, un jeune chinois de son âge qui étudie à Bruxelles, pour se documenter. Ce chinois, c'est Chang Chongzhen que Hergé mettra en scène dans le Lotus Bleu et 25 ans plus tard dans Tintin au Tibet. Là, nous sommes au cœur de l'actualité politique. Chang fait découvrir à Hergé l'écriture chinoise, la Chine contemporaine. Et surtout, il lui fait découvrir sa détestation pour le Japon qui est en train d'envahir la Chine. Dans l'indifférence complice de l'Occident et de la Société des Nations, ça s'appelle l'ONU à l'époque, Hergé dénonce l'invasion japonaise. À chaque page, Hergé parsème son dessin de vignettes d'idéogrammes qui dénoncent l'impérialisme japonais. Mais comme c'est en mandarin, le lecteur ne saisit pas. Donc c'est un album militant, mais surtout, contrairement au précédent, un album qui va contre l'opinion générale de l'époque. Faut le faire. Surtout pour un album destiné à la jeunesse.
Et les albums suivants sont plus neutres. Hergé évoque les dictatures d'Amérique du Sud dans L'oreille cassée. Mais le général Alcazar est plutôt sympathique. On évoque des rivalités entre la Bolivie et le Paraguay de 1932. Hergé dessine les marchands d'armes qui profitent des guerres. Il n'y aura pas beaucoup d'allusions politiques dans L'île noire non plus, qui raconte la découverte de faux monnayeurs en Espagne. On est à l'époque du monstre du Loch Ness. et de la sortie des aventures de King Kong, juste avant le déclenchement de la guerre.